Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, j'ai le plaisir d'animer cette émission Au fil des pages avec Anne Muratori-Philippe. Anne Muratori, bonjour.
Bonjour Hélène.
Je rappelle que vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes auteur de plusieurs livres d'histoire et ancienne journaliste au Figaro. Quel est le livre que vous avez choisi pour notre émission d'aujourd'hui?
Alors, c'est un gros album édité chez Robert Laffont qui s'appelle « Le musée révélé ». Dans la séance du 21 novembre dernier de l'Académie des sciences morales et politiques, l'un de ses membres, M. Jacques Dupaquier, a fait une communication sur le thème « L'ancien régime vu par les manuels d'histoire de la Troisième République ».
Absolument.
Et ça portait sur la période de 1871 à 1914. Ce sujet a suscité beaucoup de questions de la part de ses confrères. Et il a révélé que les manuels scolaires considèrent l'histoire de France à travers les événements qui ont le mieux incarné, si je puis dire, l'unité de la nation. Or, dans le musée révélé, que j'évoque là, 34 ans plus tôt, Louis-Philippe a eu la même démarche en créant le musée d'histoire de France au château de Versailles.
Que vous compariez M. Dupaquier à Louis-Philippe, il va certainement être très content. Donc, Louis-Philippe a créé un musée.
Un musée d'histoire de France au château de Versailles. Bon. Musée que l'on connaît très peu, puisqu'on connaît simplement la galerie des batailles. Mais il y a énormément d'autres salles que le visiteur va commencer à découvrir, car le château de Versailles, tout doucement, restaure ses salles et va pouvoir les ouvrir au public. Donc, un livre vient d'être consacré à ce musée d'histoire de France. Il paraît aux éditions Robert Laffont. Et il retrace le dessin du roi des Français. Il s'agit en fait d'un ouvrage collectif qui est la collaboration harmonieuse entre les conservateurs du château de Versailles et de jeunes historiens, le tout sous la houlette de Laurent Gervereau, qui est le créateur d'un nouvel institut des images, et de Claire Constant, qui est conservateur général au château de Versailles. Alors, pourquoi Louis-Philippe s'est-il intéressé au château de Versailles et à l'histoire de France? Lorsqu'il arrive au pouvoir, le roi des Français a besoin d'asseoir sa légitimité, car il ne faut pas oublier que son règne est né d'une émeute populaire, les fameuses Trois Glorieuses, qui ont poussé Charles X à abdiquer. Il a un gros handicap, puisqu'il est le fils aîné de Philippe Égalité, le régicide, celui qui a voté la mort de Louis XVI. Il a été soldat de la Révolution, membre du club des Jacobins. Il a suivi Dumouriez à Jemmapes et puis ils ont ensuite tous les deux trahi.
Lourd destin.
Lourd destin. Louis-Philippe ensuite a quitté, au moment de la terreur, a quitté la France. Il est parti en émigration. Et c'est à cette époque qu'il s'est marié avec Marie-Amélie, la fille de Ferdinand IV de Naples. Et puis il a vécu l'immigration en Angleterre, un peu partout en Europe, puis aux États-Unis. Et il s'est embarqué dans des aventures, dont une expédition au pays des Lapons.
Donc, je ne savais pas ça, vous m'en apprenez
des
choses.
C'est un personnage qui est extrêmement cultivé, qui a été éduqué par Madame de Genlis et qui a beaucoup voyagé. Et peut-être aussi que son idée de vouloir créer un musée d'histoire de France vient du fait qu'il soit sorti, se soit frotté à d'autres civilisations et à d'autres histoires. Donc, quand il monte sur le trône, Louis-Philippe se cherche une légitimité pour mieux se faire accepter et aussi pour lui permettre de concilier l'héritage monarchique de l'Ancien Régime et l'héritage de la Révolution. Alors, en prenant 1789 comme point de jonction du passé et de l'avenir, en fait, il cherche à réinventer une histoire de France qui va lui permettre d'être lui-même, de se situer à la fois héritier et fondateur. En fait, on peut dire qu'il se veut le roi de la réconciliation. Mmh. Il y a un point important dans la vie de Louis-Philippe, c'est que de tous les souverains de son temps, il est le plus féru en art. Et c'est peut-être cette passion pour les beaux-arts qui l'a poussé aussi à s'intéresser à Versailles.
Sans doute, oui.
Alors, pourquoi Versailles et que devient Versailles? Versailles, après le départ de Louis XVI le 6 octobre 1789, n'a pas été fermé, abandonné comme on l'imagine. Au contraire, on a continué à l'entretenir. Et ce n'est qu'après le désastre de Varennes que la Convention a décidé de vider Versailles. D'abord, on a bûché tous les symboles royaux, aussi bien les couronnes que les fleurs de lys ou les chiffres des rois. Et puis, on lui a ôté tous les tableaux et toutes les sculptures que l'on a transportées au Louvre. Et le reste se composait du mobilier. Alors, le mobilier le plus riche a été rassemblé en 17 182 lots qui ont été mis aux enchères entre 1793 et 1796 et qui ont été éparpillés dans le monde entier, puisque aujourd'hui encore, on retrouve chez Sotheby's, chez Christie's...
Des fauteuils,
des commodes, enfin, etc. Bon. Donc, en 1797, Versailles est vidé, mais il va servir à quelque chose. On va en faire un musée de l'école française, de l'école de peinture. Donc, il va y avoir à peu près 350 toiles de peintres de l'époque exposées. Il abrite une école de musique, une bibliothèque et une école du modèle vivant. L'année suivante, en 98, on va y loger les Invalides, car l'hôtel des Invalides à Paris a des gros soucis, le gouverneur a été guillotiné, les Invalides sont en révolte, et donc on en met une partie à Versailles. Et puis arrive Bonaparte, et Bonaparte ne détruit pas du tout Versailles, au contraire, il s'y intéresse beaucoup, et il commande des restaurations complètes du château, aussi bien des jardins que des salles, que des galeries, etc. Et en 1807, il estime d'ailleurs que ses travaux lui reviennent très chers et il s'étonne et il dit « Pourquoi la Révolution qui a tant détruit n'a-t-elle pas aussi démoli le château de Versailles ?» Ça l'aurait arrangé évidemment.
Pour les finances de l'État.
Voilà.
Bien.
Alors bon, Napoléon s'installe à Trianon, mais il restaure Versailles. Louis XVIII continue de restaurer Versailles et n'a pas du tout l'intention de s'y installer. En revanche, il y loge des émigrés. Quant à Charles X, Versailles ne l'intéresse pas, il fait de très petits efforts de restauration, il poursuit. Et c'est donc Louis-Philippe qui s'intéresse à Versailles lorsqu'il monte sur le trône et qui fait voter une loi en 1832 pour faire de Versailles une dotation de la couronne gérée par une liste civile. Donc il crée des conservateurs, des chefs des bâtiments, etc. Et il veut consacrer l'ancienne demeure de Louis XIV à toutes les gloires de la France. Et il veut rassembler tous les grands souvenirs de notre histoire. Et c'est un travail énorme dont vous allez voir, on l'évoque dans un petit passage de ce livre qui raconte ce chantier énorme que ça a été.
Ce chantier et tous ses travaux coûtèrent fort cher et les journées d'ouvriers furent excessivement nombreuses. On compte de 100 000 à 110 000 journées de travail pour les années 1834-1835. Il fallut mettre le château hors d'eau, enlever les gravats produisant des porte-à-faux, 500 tonnes au-dessus de la salle de 1792, y compris le long des murs extérieurs et ou le long de la voûte de la galerie des glaces, fragilisée par l'ancienne présence d'un chéneau. Il fallut évacuer tout cela en même temps que l'on transformait les anciennes grandes galeries marchandes en musées de sculpture le long des ailes du Nord et du Midi, avec les moulages des gisants de Saint-Denis ou les statues d'hommes célèbres provenant de la commande de d'Angevilliers ou du musée des monuments français de Lenoir, détruit en 1816.
Alors, pour réaliser son projet, Louis-Philippe s'entoure d'historiens, Thiers, bien sûr, Michelet, Barante et surtout Guizot. Guizot qui, en 1833, crée la Société d'histoire de France, dont la mission est de mettre à jour les documents patrimoniaux de l'histoire nationale et aussi d'imposer une histoire de Clovis à Bonaparte que l'on va étudier, qui sera une discipline majeure de l'enseignement dans les lycées. Donc vous voyez que nous approchons de l'intervention de Jacques Dupaquier, puisque Guizot s'intéresse donc à la formation et c'est un premier rudiment de manuel d'histoire.
Mais à l'Académie des sciences morales et politiques, nous avons un culte pour Guizot, puisque nous lui devons notre renaissance. Donc nous aimons beaucoup Guizot.
Et alors, parallèlement, Louis-Philippe va faire appel à Laurent Pierre de Jussieu, qui est le fils du célèbre botaniste, qui s'est fait une petite réputation en créant des manuels didactiques et qui va créer des petits livres du père Lamy, c'est le titre de ses ouvrages, donc plusieurs exemplaires, qui vont raconter l'histoire de France. Et Jussieu va participer à l'élaboration parallèlement du musée. Alors ce musée doit répondre à plusieurs objectifs. Déjà, pour Louis-Philippe, il faut que tous les personnages ou tous les événements choisis soient fédérateurs.
Bon.
Et ensuite, donc, il y a plusieurs parties. Le Panthéon des Gloires de la France, donc c'est une grande galerie de portraits. Il y a plus de 2000 portraits, on n'imagine pas qu'à Versailles, il y a plus de 2000 portraits, dont vous avez le célèbre Marat dans sa baignoire par David, ou Marie-Antoinette par Madame Vigée-Lebrun. Mais voilà la fameuse galerie de portraits. Ensuite, évoquer les grands événements de la France de Clovis au retour des cendres, en passant par la Révolution et Napoléon. Napoléon se taille une part importante. Donc on constate que dans ce musée d'histoire de France, Louis-Philippe fait commencer l'histoire à Clovis et non pas avec la Gaule. Ensuite, il y a une histoire des batailles, les grandes batailles qui ont fait la France. Donc vous imaginez que ce sont automatiquement des victoires.
Je le suppose, oui. Sinon, on ne les célébrerait pas.
Et puis, la conquête coloniale avec la Crimée et surtout l'Algérie, puisqu'on est en pleine conquête de l'Algérie et qu'on y retrouve le fameux grand tableau sur la prise de la Smala d'Abdelkader. Alors, c'est là que le roi a suivi tous les travaux au point de faire 398 visites pour installer ce musée. Et dans le deuxième passage que vous allez lire, on voit les objectifs de Louis-Philippe.
Pour réaliser cet énorme ensemble, Louis-Philippe utilisa les anciennes collections. Tableaux du château de Richelieu illustrant les batailles du règne de Louis XIII, cartons de tapisserie des Gobelins représentant l'histoire du roi et les mois, vues des maisons royales sous Louis XIV, vues des jardins par Cottel, œuvre de Hubert Robert décrivant la replantation du parc sous Louis XVI, aquarelle militaire commandée par Napoléon à Baghetti, toile historique couvrant l'Ancien Régime et l'Empire, gouache de Van Blarenberg commandée par Louis XVI. Comme tout cela ne suffisait pas, nombre de commandes furent passées par Louis-Philippe. Si beaucoup de ces dernières peuvent paraître médiocres, on ne peut oublier le souci d'exactitude exprimé par le roi.
Alors, Louis-Philippe est parvenu au but et le 10 juin 1837, on a inauguré donc ce nouveau musée d'histoire de France. En grande pompe, il y avait, après la grande visite du roi, accompagné du roi des Belges, de tous les corps constitués, de toutes les assemblées, aussi bien la Chambre des Pairs que la Chambre des députés, l'armée, les ecclésiastiques, tout ce petit monde a visité toutes les salles. Et ensuite, il y a eu un banquet de 1500 personnes. Et la table du roi comportait 600 convives.
Donc, une grande inauguration.
C'était une grande inauguration. Ce musée a eu aussitôt beaucoup de visiteurs, beaucoup d'engouement, mais il a été assez décrié au départ. Et pourtant, ce n'est pas du tout l'avis de Victor Hugo, puisque vous allez lire le passage.
Je vais vous lire ce que Victor Hugo, lui-même, admirateur de l'empereur, séduit par Louis-Philippe, écrit. Ce que le roi Louis-Philippe a fait à Versailles est bien. Avoir accompli cette œuvre, c'est avoir été grand comme roi et impartial comme philosophe. C'est avoir fait un monument national d'un monument monarchique. C'est avoir mis une idée immense dans un immense édifice. C'est d'avoir installé le présent dans le passé, 1789 vis-à-vis de 1688. L'empereur chez le roi, Napoléon chez Louis XIV, en un mot, c'est avoir donné à ce livre magnifique qu'on appelle l'Histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles. Voilà ce qu'en dit Victor Hugo.
C'est étonnant de la part de Victor Hugo. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, le musée a été très critiqué. Balzac a estimé que c'était pour les épiciers.
Bon.
Les étrangers ont trouvé qu'il y avait un petit peu trop de victoires. D'autres ont trouvé qu'on faisait la part belle à l'Angleterre. Évidemment, il ne faut pas oublier que Louis-Philippe avait vécu en Angleterre aussi. Donc, il a été énormément critiqué. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que c'est énorme, ce musée. Il y a 13 salles consacrées aux campagnes de 1796 à 1810. La grande galerie des batailles que tout le monde connaît. Plus 14 salles qui vont de Clovis à la Révolution. Plus les salles qui vont de 1792 à 1836. 10 salles. 5 salles pour les croisades. 5 salles pour les croisades, personne ne les connaît. Il n'y a que l'ordre de Malte qui les connaît parce qu'il y a la porte en cèdre de Saint-Jean de Jérusalem qui se trouve réinstallée dans la salle des croisades. Et du coup, l'ordre de Malte y fait ses cérémonies ou ses ouvertures. Mais personne ne connaît les salles des croisades. Toujours 5 salles pour les conquêtes coloniales, Algérie, Afrique, etc. Et tout le reste, l'ensemble du bâtiment. Dans le corps central, vous avez les milliers de portraits. Dans les galeries basses, tout le règne de Louis XIII et Louis XIV en tableau, donc on retrouve les Rigaud, on retrouve tous les grands peintres de l'époque. Et enfin, dans les appartements du dauphin et de la dauphine, tous les grands portraits de Madame Vigée-Lebrun, de David, de Lacroix, etc. Donc, il faut rendre un hommage à Louis-Philippe, c'est que...
Il n'a pas ménagé la place qu'il faut pour mettre toutes ses œuvres en valeur.
Et en plus, il a su réaliser son projet et raconter la création de la France et l'histoire de France à travers tous ses tableaux, tout en réutilisant le décor architectural de Versailles et parfois transformant Versailles en musée, puisque les salles Louis XIII, Louis XIV sont les salles, les appartements du roi aussi en partie.
Donc plus de 50 pièces, en vous écoutant, je comptais ce que vous disiez, ça fait donc plus de 50 pièces consacrées à ce musée, c'est extraordinaire. Oui. Voilà, un projet gigantesque.
C'est un projet gigantesque.
Et rendre hommage.
La plupart des tableaux, comme Napoléon au pont d'Arcole, tous ces tableaux, nous les connaissons puisque nous les avons eus tous.
Dans nos livres d'histoire.
Dans nos livres d'histoire.
Absolument.
Et que les enfants d'aujourd'hui les ont encore dans leurs livres d'histoire.
Alors ce musée, Admiratorie Philippe, ce musée de Louis-Philippe à Versailles, est-ce qu'on peut le visiter aujourd'hui?
On en visite une partie. Les parties coloniales ont été ouvertes assez récemment et je pense que petit à petit, il est prévu d'ouvrir la galerie des croisades notamment. Petit à petit, il va s'ouvrir presque intégralement.
Alors en attendant que toutes ces pièces du musée de Louis-Philippe puissent s'ouvrir, donc vous pouvez rappeler le bel album que vous avez entre les mains. Rappelez-nous le titre.
Alors c'est le Musée révélé, l'histoire de France au château de Versailles, sous la direction de Laurent Gervereau et Claire Constant. Et c'est une coédition Robert Laffont, Le Château de Versailles.
Merci Anne Muratori Philippe de nous avoir fait découvrir ce beau livre et à une prochaine fois dans un Au fil des pages.
Merci.